Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end, content de vous retrouver cette semaine. Ce sont les 142 milliards économisés par les Français depuis le début de la pandémie qui ont fait travailler les imaginations. 142 milliards, c'est plus que le plan de relance. Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, va tout nous dire à propos de ces 142 milliards. Et puis, il y a le fameux compteur électrique Linky. Les usagers vont-ils devoir le rembourser ou pas? La polémique est remontée jusqu'à l'Assemblée nationale. Marianne Léniaud, la présidente du directoire d'Enedis, sera là en direct tout à l'heure pour y répondre. Mais d'abord, la baisse de la natalité qui frappe les pays riches, la France aussi bien que la Chine. Mon premier invité est un démographe, c'est Gilles Pison. Gilles Pison, bonjour. Vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, chercheur associé à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Vous êtes l'auteur de l'Atlas des Populations, paru aux éditions Autrement. Alors François Bayrou, le haut commissaire au plan, estime qu'il manque 40 à 50 000 naissances par an en France pour assurer le renouvellement des générations et accessoirement payer nos retraites. C'est pareil dans toute l'Europe. La population en âge de travailler diminue. Depuis 2000, l'Europe a perdu 8 millions de travailleurs. C'est la population active de la Belgique et risque d'en perdre 37 millions d'ici 2050, soit la population active de l'Italie. Et en Chine, en 2020, le nombre de naissances est tombé à 12 millions contre presque 15 millions en 2019, si bien que les autorités chinoises ont supprimé cette semaine la limite de 2 enfants par couple. Le troisième enfant est désormais bienvenu dans un pays où les plus de 60 ans sont plus de 264 millions. Alors est-ce que c'est une tendance mondiale et est-ce que tout ça résulte du baby crash dû au Covid?
Alors, il y a un mouvement de fond, c'est le vieillissement de la population. Il a lieu partout sur la planète. Alors, il a commencé en premier dans les pays développés et la France a été précurseur dès il y a 2 siècles. Elle a vu sa population vieillir, donc là, la proportion de personnes âgées augmenter et celle des jeunes diminuer. À l'époque, c'était en raison de la limitation des naissances. Les Français ont été les premiers à se mettre à limiter les naissances, mais c'était il y a plus de 2 siècles. Et alors, le résultat, c'est que ce vieillissement démographique, qui ensuite s'est prolongé, a été donc renforcé par l'allongement de la vie, qui est venu plutôt en second. Et aujourd'hui, dans un pays comme la France, la population continue de vieillir, principalement en raison des progrès dans la lutte contre la mortalité, et donc dans l'allongement de la vie. Alors, c'est un phénomène qui touche les pays développés, mais aussi le reste du monde. Alors, bien sûr, la Chine, le Brésil, l'Inde, mais même qui commence en Afrique subsaharienne, où la population est encore démographiquement jeune, mais où elle va aussi vieillir. Donc, c'est un des grands phénomènes de fond de ce 21e siècle, on n'en parle peut-être pas assez. Il ne concerne pas seulement les pays développés, et il ne pose pas seulement des questions pour la pérennité des systèmes de retraite des pays développés, il pose des questions partout sur la planète.
Alors François Bayrou a dit qu'il allait falloir faire plus d'enfants et laisser entrer plus d'immigrés si l'on voulait préserver notre modèle social qui est basé sur la solidarité entre les générations. Ça paraît plus facile de laisser entrer des immigrés que de faire plus d'enfants. Comment inciter à faire plus d'enfants? Est-ce que ça fonctionne?
Alors, il faut rappeler que depuis la fin du baby boom, il y a 50 ans, en France, les naissances fluctuent entre 700 000 et 800 000 par an. Pendant la période du baby boom, donc qui a précédé, les 30 années qui ont précédé cette période, elles fluctuaient entre 800 000 et 900 000 par an. Mais depuis la fin du baby boom, donc depuis 50 ans, elles fluctuent entre 700 000 et 800 000. Et de façon assez constante, c'est-à-dire que il y a des périodes où elles sont en baisse, c'est le cas depuis une dizaine d'années, et puis il y a des périodes où elles sont en hausse, c'était le cas de la décennie précédente, la décennie 2000 a vu les naissances augmenter. Et puis si on recule comme ça, on a une alternance de périodes avec des hausses et des baisses. Voilà. Alors au total, pour la France, les femmes ont le même nombre d'enfants que les femmes de la génération de leur mère, il y a 30 ou 40 ans. Elles ont deux enfants. La principale différence, c'est qu'elles les ont nettement plus tard. Les femmes de la génération de leur mère ont eu leurs enfants en moyenne à 26 ans et demi, et tout rang confondu, hein, et leur premier enfant à 24 ans. Et les femmes qui accouchent aujourd'hui, elles ont en moyenne 31 ans, et celles qui accouchent de leur premier enfant, elles ont 29 ans. Donc les femmes aujourd'hui ont autant d'enfants que celles de la génération de leur mère, en France, hein, mais elles les ont nettement plus tard. C'est ça le grand phénomène.
On a parlé de baby crash à propos de la pandémie de Covid. Il faut dire que si l'on fait des enfants quand on est confiant, optimiste, c'est sûr qu'entre la crise de l'environnement et le Covid, l'ambiance a été particulièrement anxiogène. Mais quelle est la part réelle du Covid dans tout ça ?
Alors, il faut rappeler qu'au printemps 2020, donc il y a un peu plus d'un an, on était dans le premier confinement, certains avaient annoncé un baby boom 9 mois après, et ils se fondaient sur une augmentation des ventes des tests de grossesse. Elles reflétaient en réalité une hausse des grossesses non désirées liées à des difficultés d'accès à la contraception pendant le confinement. Hein. Mais en réalité, et on l'a observé 9 mois après, les naissances ont baissé. Et donc les enfants nés en janvier 2021 en France, qui ont été conçus pour la plupart en avril 2020, c'était le cœur du premier confinement, ils ont été 13% moins nombreux que ceux nés un an auparavant, en janvier 2020. Et en février 2021, pareillement, on a observé des naissances moins nombreuses qu'un an auparavant. Mais, donc ça, c'est les enfants qui ont été conçus pendant le premier confinement. Alors, quand j'étais interrogé il y a un an à propos du baby-boom qui, soi-disant, se préparait, moi, je disais, au vu des crises économiques passées, notamment celles survenues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on observe qu'une crise est souvent suivie d'une baisse des naissances 1 ou 2 ans après. La montée du chômage, l'incertitude quant à l'avenir conduisent en effet une partie des couples souhaitant avoir un enfant à reporter leur projet à plus tard. Mais on observe aussi qu'une crise n'empêche pas les naissances. Elle les reporte à plus tard et il y a souvent récupération en sortie de crise. Donc, cette expérience des crises économiques passées peut nous servir à décrypter ce qui se passe. Et donc, une baisse des naissances liée très certainement au Covid-19 et qui probablement sera temporaire, c'est-à-dire qu'il faut attendre en sortie de crise une récupération des naissances qui n'ont pas eu lieu. Alors, est-ce qu'elle va être totale? Est-ce qu'elle va être partielle? Quelle va être son ampleur? C'est encore trop tôt pour le dire, mais on observe déjà un phénomène de récupération partielle, puisque en mars 2021, les enfants qui sont nés sont 1% plus nombreux que ceux nés un an auparavant. Et puis en avril 2021, les naissances ont été 5% plus nombreuses qu'en avril 2020. Donc, il semble bien qu'on observe une récupération partielle de naissances qui n'ont pas eu lieu au cours des mois précédents. Alors,
attendez, je vous interromps, Gilles Pison. On fait une pause. Oui. On se retrouve juste après. On continuera.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Gilles Pison, qui est démographe, qui est l'auteur de l'Atlas des populations aux éditions Autrement. Gilles Pison, les conséquences pour un pays qui vieillit, ou un continent comme l'Europe, puisque c'est le cas de l'Europe, est-ce qu'on les connaît? Est-ce que l'on sait ce qu'il advient d'un pays qui vieillit, alors que ce soit par le haut, grâce à l'allongement de la durée de la vie, ou par le bas, en faisant moins d'enfants? Est-ce qu'on devient moins innovant, plus sécuritaire, moins industrieux? Est-ce qu'il y a plus de musées, mais moins d'artistes?
Alors, je ne connais pas d'études qui donnent des réponses claires, définitives, sur ce que vous venez de dire. Et on observe que si on vit plus longtemps, on vit plus longtemps en bonne santé, en moyenne, hein. Et donc, les années gagnées en plus, c'est des années d'activité, de vie sans être handicapé, en dépendance. Alors, il reste toujours une période en fin de vie qui présentent des difficultés de vie. Alors en moyenne, hein, parce qu'il y a des personnes qui meurent brutalement en étant tout à fait en bonne santé, au sens elles ont leurs capacités, puis il y en a qui plusieurs mois, plusieurs années sont en difficulté. Alors il faut pas se leurrer, on va avoir des décennies avec une hausse du nombre de personnes âgées, voire très âgées, et une donc demande en aide pour des personnes qui vont avoir des difficultés. Alors, pas seulement lié à l'allongement de la vie, mais au fait que arrivent aux âges élevés, voire très élevés, les personnes nées pendant le baby-boom. Les baby-boomers, hein, ils sont nés en 1946 et 1975, et donc ça va accélérer le vieillissement de la population pendant quelques années, et aussi donc susciter des besoins non seulement pour les pour l'aide, l'assistance, mais aussi ça va être un défi pour le système de retraite. Donc faut pas se leurrer, mais c'est un défi qu'on devrait pouvoir gérer.
Alors Gilles Pison, vous venez de publier dans la revue Human Reproduction une étude montrant qu'il n'y a jamais eu autant de naissances de jumeaux dans le monde. C'est un record historique, 1,6 million de paires de jumeaux par an. Votre étude porte sur 165 pays, ça a augmenté d'un tiers à l'échelle mondiale en 40 ans. Est-ce que c'est réparti partout de la même manière, en Europe comme en Afrique ?
Alors non, la fréquence des naissances de jumeaux est restée stable en Afrique. Alors, elle est restée la plus élevée du monde. L'Afrique a cette particularité d'être le continent où il naît le plus de jumeaux. Mais c'était le cas il y a 40 ans, ça reste le cas. Dans les autres continents, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord, depuis une quarantaine d'années, la fréquence des jumeaux a énormément augmenté, elle a pratiquement doublé. Et résultat, l'Europe, l'Amérique du Nord se rapprochent des taux de gémellité élevés de l'Afrique. Et résultat, à l'échelle mondiale, les chiffres que vous avez rappelés, cette hausse d'un tiers de la fréquence des jumeaux, qui s'explique pour deux raisons, hein. Il y a d'abord la diffusion de l'assistance médicale à la procréation qui est associée à une probabilité élevée de naissances multiples, et puis le retard des maternités, car la probabilité d'une grossesse gémellaire augmente avec l'âge des femmes. Donc c'est ces deux facteurs qui ont joué depuis 40 ans, et principalement dans les pays où ont eu lieu ces mouvements, hein, donc c'est les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. La hausse a eu lieu même dans les pays qui n'ont pas encore vu un développement important de l'AMP, mais où elle est en train de se développer.
Est-ce que ce sont de vrais ou de faux jumeaux ?
Alors la hausse, ça concerne uniquement les faux jumeaux, les jumeaux dizygotes, hein. Et les jumeaux monozygotes, donc les vrais jumeaux, attendez, je me corrige, donc la hausse, elle concerne que les faux jumeaux, hein, les dizygotes et les monozygotes, les vrais jumeaux, il en est à la même fréquence, 4 grossesses pour 1000 sont des grossesses de jumeaux monozygotes.
Merci beaucoup Gilles Pison d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Je renvoie à votre livre « L'Atlas des populations » qui est paru aux éditions Autrement. On se retrouve dans un instant avec Mathieu Plane. On va parler de ces fameux 142 milliards d'euros économisés par les Français.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
142 milliards, c'est ce que les Français ont économisé depuis le début de la pandémie. Le gouvernement voudrait bien qu'ils dépensent cet argent afin de contribuer à la croissance, de diminuer la dette de l'État et de créer des emplois. Seulement voilà, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques qui dépend de Sciences Po. Alors ma première question est simple, qui les a ces 142 milliards ?
Une étude de l'INSEE montrait que sur l'année 2020, les ordres de grandeur, c'est à peu près, on a entre 3/4, voire un peu plus même, de cette épargne qui serait concentrée sur les 25% de ménages les plus aisés. Ça veut dire des ménages qui sont au-delà de 2300 euros par mois pour une personne seule. Et donc c'est eux quelque part qui ont la clé finalement de la reprise et en fonction de la façon dont ils vont mobiliser ou pas cette épargne.
J'insiste hein, parce que à chaque fois qu'on dit les plus hauts revenus, les gens s'imaginent des riches, des ultra riches. Non, les hauts revenus dont vous parlez, vous l'avez dit, c'est 2500 euros par mois pour une personne seule et c'est 4700 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Pas des gens très riches, pas des ultra riches comme certains le croient.
Oui, non, là on touche là quand même à 25% de la population, donc c'est concentré sur ces 25% et dans les 25%, c'est un peu d'ailleurs ce qui fait une des caractéristiques de cette catégorie plutôt dit des hauts revenus. Ça commence finalement au niveau de la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire un technicien, hein, un prof aussi sera au-delà des 2500 euros potentiellement, pas tous hein, bien sûr, mais on en a un certain nombre, et ça va jusqu'à François Pinault quoi. Donc vous avez effectivement une hétérogénéité qui est très forte, mais ça c'est effectivement ces personnes-là, il y a beaucoup de cadres hein, notamment aussi dans cette catégorie-là, et ces personnes-là finalement ont eu leur revenu qui a été le plus préservé, parce que c'est la plupart ont été en télétravail et moins touchés par la crise qui a quand même plutôt impacté les plus précaires, les jeunes notamment. Et donc ces ménages-là ont pas vu leurs revenus pour la plupart être extrêmement heurtés par la crise, et en revanche leur consommation était très contrainte parce que c'est eux qui consomment quand même beaucoup de loisirs, de restaurants, d'événements, de spectacles, de finalement tous les secteurs qui ont été extrêmement touchés par la crise.
Alors autre caractéristique de ce bas de laine, ils sont où ces 142 milliards? Ils sont pas investis dans une assurance vie ou sur un plan épargne hein?
Non, alors c'est là aussi un des points de vue en tout cas qui peut être intéressant pour la suite, c'est que c'est une épargne qu'on dit très liquide, c'est-à-dire elle n'est pas effectivement investie dans des produits financiers complexes. Typiquement, en fait, elle garnit surtout les comptes courants des ménages, hein, donc ça montre bien que c'était pas un placement désiré ou souhaité, hein, mais que du coup cet argent est rentré un peu, tant mieux, hein, on va dire, mais un peu par la force des choses. Et donc c'est plutôt sur les comptes courants ou des livrets A. Essentiellement, il y a un peu d'assurance vie, mais ça reste quand même assez faible. Et donc, c'est vrai que la mobilisation possible de cette épargne vers la consommation est assez facile parce que cette épargne est immédiatement disponible. Et donc, c'est peut-être un des arguments qui fait ou qui laisse penser qu'une partie sera reconsommée.
Est-ce que c'est beaucoup, 142 milliards? On épargne combien par an d'habitude en France?
Il faut savoir que les ménages français sont déjà des gros épargnants. Hein. On est plutôt fourmis. Que cigale hein, de ce côté-là, on a globalement 15% en moyenne du revenu des ménages qui est épargné chaque année. Les montants, c'est un peu plus de 200 milliards par an qui sont épargnés. Donc, il faut bien avoir ça en tête, c'est que l'épargne Covid, c'est une surépargne, c'est-à-dire que les ménages ont épargné à peu près 200 milliards, voire un peu plus, et vont s'ajouter à peu près 140 milliards supplémentaires. Et c'est beaucoup 140 milliards parce que ça fait à peu près 10% du revenu annuel. Donc si vous voulez, 10% du revenu annuel, ça fait à peu près 5 ou 6% du PIB, donc on voit qu'on a un enjeu très fort quand même, hein. C'est plus que le plan de relance, aujourd'hui le plan de relance est de 100 milliards, donc les ménages, et en particulier les catégories on va dire les plus aisées, ont sur leur compte un montant supérieur au plan de relance, donc ils détiennent un second voire un troisième plan de relance.
Le fait que l'on touche à ce bas de laine ou pas, ça va dépendre de quoi? Est-ce qu'on le sait?
C'est très compliqué parce que la situation est inédite, hein, en fait, et donc on a très peu d'éléments comparatifs là-dessus. Économiquement, ce qu'on sait, c'est que en général, il y a des déterminants qui font qu'on va plutôt consommer ou épargner. En général, on consomme plus qu'on épargne quand on est dans une projection qui est positive de l'avenir, notamment économique, c'est-à-dire lorsque le chômage baisse, lorsque il y a des prévisions d'emploi qui sont plutôt favorables ou des augmentations potentielles de salaire. À l'inverse, s'il y a des risques de chômage élevés ou de l'incertitude, les ménages auront plutôt tendance à mettre de l'argent de côté pour faire face à des difficultés futures. Donc ça, c'est un des premiers points, c'est la confiance dans l'avenir, la confiance économique et sociale. Et un autre point qui existe, c'est ce qu'on appelle un effet, alors, en économie ricardien. C'est-à-dire, si les ménages anticipent des augmentations d'impôts futurs pour payer la dette Covid, la dette de crise, alors, à ce moment-là, ils seront certainement amenés à mettre de l'argent de côté pour payer des impôts futurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a deux clés. Aujourd'hui, il y en a trois, même avec la gestion sanitaire. Deux clés pour que cette consommation reparte fortement. C'est premièrement, faire en sorte que le marché du travail ne se dégrade pas et qu'on n'ait pas de faillite, parce que sinon, les ménages seront inquiets et ne consommeront pas. Et l'autre point, c'est que on n'est pas une gestion de la dette Covid qui nous amène à une cure d'austérité. Et à ce moment-là, avec des annonces d'augmentation d'impôts, les ménages seraient extrêmement prudents et consommeraient pas cette épargne. Donc voilà, c'est deux clés, à mon avis, qui sont fondamentales.
Avec une troisième, vous l'avez dit, sanitaire, il faudrait pas qu'on nous annonce une quatrième ou une cinquième vague, évidemment. On fait une pause, Mathieu Plane, on se retrouve juste après. Il y a encore beaucoup à dire sur ces 142 milliards.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. On parle de ces 142 milliards que les Français ont économisés, en plus depuis le début de la pandémie, et que le gouvernement voudrait bien qu'il dépense, au moins en partie, pour relancer la croissance, créer des emplois et diminuer la dette. Le risque, évidemment, c'est que cet argent soit mal dépensé. Si on achète un ordinateur, une télé ou un téléphone, ce sont des importations. On relance l'économie, mais pas la nôtre.
Ah oui, ça c'est un point important. C'est que, et ça c'est finalement important de rentrer dans le détail aussi de cette consommation. C'est l'idée n'est pas juste d'avoir une reprise forte de la consommation, c'est avoir une reprise forte de la consommation riche en activité entre guillemets made in France, avec un contenu en emploi local ou domestique important. Ce qu'on a vu là dans les derniers mois, c'est que finalement la consommation de certains secteurs était repartie, mais les secteurs qui ont la consommation aujourd'hui la plus élevée, c'est et d'ailleurs des niveaux de consommation qui sont bien au-dessus des niveaux d'avant crise, c'est la consommation sur tout ce qui est lié aux biens d'équipement du foyer. Et bien sûr, ça va être les téléviseurs, c'est aussi les canapés par exemple, c'est tout ce qui va toucher au foyer. Et on voit que là-dessus, on a un contenu en importation qui est très élevé. Donc c'est beaucoup de produits manufacturés importés. Et donc ça, bien sûr, pas le même effet qu'une consommation de services où on a très peu d'import. Et donc c'est vrai que l'enjeu de la reprise de la consommation et aussi que cette consommation aille dans les bons secteurs, c'est-à-dire les secteurs des services qui ont été les plus touchés.
Mais qu'est-ce que peut faire le gouvernement? De quel levier dispose-t-il pour orienter cette épargne là où il pense que ce serait bénéfique pour le pays?
Alors là, c'est justement la... un peu, je dirais, la limite de l'exercice, c'est qu'on a très très peu d'outils. On va pas forcer les gens à aller au restaurant, donc c'est très compliqué. On peut pas les empêcher d'acheter des ordinateurs ou des télés, sachant que les ordinateurs sont aussi utiles pour le télétravail.
Et qui sont fabriqués à l'étranger.
Et qui sont fabriqués à l'étranger. Alors même s'il y a un peu de marge commerciale quand ça va être effectivement un magasin proche de chez vous qui le vend. Mais il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que les outils fiscaux que pourrait utiliser le gouvernement pour cibler cette consommation éventuellement, le seul outil qui existe, c'est la TVA en réalité, c'est-à-dire d'avoir des baisses de TVA ciblées sur certains secteurs et des baisses temporaires, parce que si vous faites des baisses de TVA durables, ça coûte très cher, ça poserait quand même pas mal de difficultés. Mais donc, c'est dire, par exemple, vous baissez temporairement la TVA dans la restauration.
Ce qu'a fait l'Angleterre, l'Allemagne, je crois aussi.
Oui, il y a aussi la Belgique et l'Autriche. Tout à fait, l'Allemagne a fait une baisse de TVA généralisée, alors que d'autres pays ont fait des baisses de TVA ciblées.
Et donc, c'est dur. Pardon de vous interrompre, Mathieu Plane, mais admettons qu'on fasse une baisse de TVA généralisée alors que les gens allaient s'apprêter justement à dépenser de l'argent. L'État y perdrait, ce serait une erreur. Oui. Il vaut mieux qu'il attende un peu de voir si ça porte.
Tout à fait. Je dirais que c'est une cartouche à garder. Si les choses se passent bien, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les choses se passent plutôt bien. C'est-à-dire qu'on voit une forme de dynamisme et de reprise qui est plus forte que prévu. Vous n'avez pas besoin de baisser la TVA dans ces cas-là. Si la confiance revient, si les ménages ont envie de consommer, ça serait effectivement inutile, voire de l'argent perdu fiscalement. Par contre, si on voit qu'il y a un essoufflement rapide, il faut penser à des mesures ciblées, et ça peut être une des options.
Il y a un scénario pessimiste, je crois que vous avez travaillé dessus à l'OFCE, imaginons, les Français gardent leur argent. À ce moment-là, on n'aurait que 4% de croissance dans notre pays. Puis il y a un scénario optimiste où ils dépensent 20% de ce qu'ils ont économisé et immédiatement, ça devient 6% de croissance, 2 points de dette en moins et 200 000 emplois en plus.
Oui, ça montre en fait la fourchette dans laquelle on est, c'est-à-dire... Et cette réserve, qui est une sorte de trésor de guerre, et bien sûr, le gouvernement en a tout à fait conscience que c'est un élément central de cette reprise. On voit que avec un scénario, on va dire, plutôt pessimiste, c'est-à-dire que effectivement on revient à un niveau d'épargne normal, comme vous l'avez dit, et on touche pas à cette épargne qui serait mise de côté et qui serait plus voilà, qui deviendrait une forme de patrimoine, hein, mais qui serait plus réinjectée. On aurait un scénario à 4%. Dans l'autre cas, seulement si on touche à 20%, c'est-à-dire si les ménages reconsomment seulement 20% de cette épargne, c'est pas tant que ça, hein, 20%. On a 2 points de croissance en plus, c'est quand même colossal, 2 points de croissance en plus, hein, et 200 000 emplois potentiellement à la clé, sauvegardés ou créés, et une trajectoire de déficit ou de dette qui serait beaucoup plus favorable. Donc, vous imaginez si les ménages français se remettaient à consommer 100% de cette épargne, on serait dans un scénario des années folles, hein. Donc, on voit bien que ce levier-là est essentiel, et j'allais dire, la France n'est pas une exception dans le monde. C'est-à-dire que la plupart des pays développés ont accumulé des montants colossaux d'épargne. Et donc, il est possible qu'on ait un regain de consommation très fort à travers le monde. Et donc, avec des effets par le commerce extérieur qui soient aussi assez favorables. Donc, on a potentiellement des scénarios de sortie de crise avec des très fortes croissances.
Imaginons un scénario idéal. Mathieu Plane, une famille avec 2 enfants qui fait partie de ces familles qui ont économisé ces 142 milliards. Nous sommes samedi, on a envie de se faire plaisir. Vous nous conseillez de dépenser dans quoi ?
Ce que je conseillerais pour le week-end, hein, si vous êtes sur Paris, c'est de prendre le train, par exemple, pour aller en Normandie, en Bretagne.
Ça, ou dans c'est le bon, Midi, le train, hein. C'est bon, c'est français.
Le train, oui, en plus, les services de transport ont été touchés, donc ça fait partie, effectivement, des éléments importants. D'aller à l'hôtel. Forcément, à l'hôtellerie.
Plutôt que de louer une maison, par exemple. Louer une maison, c'est moins
oui,
bien.
Oui, ça fait c'est moins un transfert de revenus. Ouais. Voilà, il y a moins d'activités à la clé. Vous allez à l'hôtel, vous sortez au restaurant en famille, donc ça coûte un peu cher, hein, mais en tout cas vous faites travailler l'activité locale et l'emploi local. Si vous avez l'occasion d'aller voir un spectacle aussi ou d'aller dans un parc de loisirs, ça serait une bonne chose. C'est vrai qu'on voit que c'est beaucoup de services, hein, ça c'est peu de biens manufacturés. Après,
ça fait une voiture,
voyez,
on peut s'acheter une voiture. Une
voilà,
neuve,
ou un vélo, vélo made in France, essayer de voir une voiture qui soit essentiellement, donc,
produite
on va
en
dire,
France.
Le contenu en valeur ajoutée soit assez important en France. Vous avez certains produits de luxe aussi, qui sont encore faits en France. Il y a des éléments, mais on voit que c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui.
Les vêtements, c'est plutôt fabriqué à l'étranger, sauf si c'est cher.
Voilà. Exactement, exactement. Mais aujourd'hui, si on vous regardez, finalement, dans les services, le contenu en importation est de l'ordre de 15%, alors que, dans les produits manufacturés, aujourd'hui, on est à 70%. Et pour tout ce qui est électronique, on est même à 90%, plus de 90%. Donc, vous voyez, qu'on a une hétérogénéité très forte et que, effectivement, quand vous allez au restaurant ou en vacances en France, ça n'a pas du tout les mêmes effets sur l'activité, le PIB et l'emploi que lorsque vous allez acheter effectivement des produits manufacturés, par exemple fabriqués en Chine.
Merci Mathieu Plane, on fait une pause, on se retrouve juste après avec Marianne Léniaud, la présidente du directoire d'Enedis. On va revenir sur ce fameux compteur Linky qui a beaucoup fait parler toute la semaine.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Marianne Léniaud.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes présidente du directoire d'Enedis, l'entreprise de services publics gestionnaire du réseau de distribution d'électricité présente sur 95% du territoire français. C'est un article du Parisien du 31 mai qui a déclenché la polémique. Cet article disait que les 32 millions d'usagers chez qui ont été installés un compteur électrique Linky par votre entreprise Enedis allaient devoir bientôt commencer à le rembourser alors que les pouvoirs publics avaient assuré que ça ne leur coûterait pas un centime. C'était Éric Besson, ministre de l'Industrie à l'époque, qui l'avait proclamé, et Emmanuel Wargon, actuel ministre délégué à la transition écologique, l'a répété à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que le prix de ces compteurs, c'est vous qui l'avez avancé jusqu'à présent, cet argent, est-ce que ça va être répercuté sur ma facture d'électricité ?
Merci Frédéric Taddeï de me donner l'occasion de revenir sur ce sujet. Non, et je suis très heureuse d'affirmer de manière très ferme qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de hausse de la facture de nos clients, les clients d'Enedis, liés aux compteurs Linky. Zéro impact sur leur facture. Alors, bien évidemment, concevoir, faire fabriquer, installer un compteur comme Linky, vous l'avez dit, 32 millions de compteurs installés, 35 à la fin de l'année, ça a un coût. Et ce coût, il est d'environ 4 milliards pour Enedis. Mais ce coût, il est intégralement compensé par les économies de fonctionnement que l'entreprise Enedis réalise grâce au compteur Linky. Alors, quelles sont-elles? Elles sont, je crois, faciles à comprendre. Autrefois, quand vous aviez un compteur classique, bleu, vous vous en souvenez, eh bien, deux fois par an, quelqu'un venait chez vous, un technicien d'Enedis, pour relever le compteur et regarder votre consommation pour vous la facturer ensuite. Aujourd'hui, nous ne faisons plus cela. Tout ça se fait à distance. 32 millions de compteurs multipliés par deux fois par an, 64 millions de déplacements évités. De même, si vous voulez augmenter la puissance de votre compteur, parce que vous avez fait des travaux, et les Français ont fait beaucoup de travaux pendant la crise Covid, où vous avez des nouveaux appareils électriques, il faut augmenter la puissance de votre compteur. Tout ça, ça se fait maintenant à distance, et nous faisons 2 millions d'opérations à distance, téléopérées, comme on l'a dit, chaque mois. Bien évidemment, Linky nous aide aussi à mieux piloter le réseau d'électricité, à dépanner, puisque c'est notre mission, plus rapidement nos clients, de manière plus efficace. Il réduit aussi les fraudes. Donc tout ça, ce sont des économies pour Enedis qui viennent complètement compenser le coût de fabrication et d'installation de ce compteur. Et tout ça se fait sur aussi bien l'estimation des coûts que des gains sur une vingtaine d'années.
Et il paraît que sur cette affaire, vous allez gagner beaucoup d'argent. Je crois que c'est le rapport de la Cour des comptes en 2018 qui disait 500 millions d'euros de bénéfices. Alors évidemment, les gens se sont mis à penser que c'était dû au remboursement.
Oui, je crois que c'est important de revenir sur le rapport de la Cour des comptes qui avait fait en 2000, il date de 2018. À l'époque, 2018, il y avait seulement 8 millions de compteurs installés et non pas 32 millions comme aujourd'hui. Et il est vraiment important de souligner qu'il n'y a pas d'impact sur la facture de nos clients. Ensuite, il y a des mécanismes de financement qui sont un peu complexes, et c'est à ça que le rapport de la Cour des comptes fait référence, qui nous ont permis en réalité, qui permettent à la commission de régulation, c'est elle qui fixe les tarifs, de faire que l'estimation des gains se produise au même moment que les coûts. Or, ces gains, ils ont mis du temps à arriver, puisque au départ, il y avait très peu de compteurs Linky, il y avait peu d'offres des fournisseurs aussi qui s'appuient sur les bénéfices pour le client des compteurs Linky. Aujourd'hui, tout ça a complètement changé. Il y a une vingtaine d'offres des fournisseurs qui s'appuient sur Linky, et donc nos clients ont aussi des bénéfices très importants qui leur font faire des économies, qui font baisser leurs factures. Il leur suffit de pratiquer des éco-gestes. L'éco-geste, c'est simple, c'est vous réduisez votre plaque de puissons, vous surveillez la consommation de vos équipements électriques, vous baissez un peu le chauffage, plus des offres des fournisseurs. Et avec Linky, l'agence de maîtrise de l'énergie estime que nos clients peuvent baisser leurs factures jusqu'à 10%. Donc des gains, des économies pour Enedis qui compensent les coûts, mais aussi des bénéfices pour le client, puisque Linky est réellement un levier de la transition écologique, énergétique, c'est-à-dire lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Et Linky permet de mieux piloter sa consommation. Et enfin, je voudrais dire, et je crois qu'il faut l'avoir en tête, c'est quand même un véritable succès industriel dont nous pouvons être fiers. Nous arrivons 7 ans après le lancement de ce grand projet, dans le délai. Nous avions dit que ça sera fini fin 2021. Ça sera fini fin 2021 avec 35 millions de compteurs, dans un coût qui est un peu inférieur, je tiens à le souligner, à ce qui avait été prévu au départ, puisque le coût pour Enedis est estimé à 4,7 milliards. Il sera en définitive de 4 milliards. Donc nous avons été aussi efficaces pour piloter ce projet. C'est un projet qui a créé de l'emploi, 10 000 emplois en France, puisqu'il est assemblé dans des usines qui sont situés en France. Et donc, je crois que c'est un succès industriel qui viennent compléter de grands bénéfices pour nos clients.
Mais Marianne Legnaud, alors dans ces cas-là, pourquoi l'électricité est plus chère? On parle même d'une hausse de tarif de 15 euros par an. C'est dû à quoi, l'augmentation du prix de l'électricité en France?
Alors, l'augmentation du prix de l'électricité en France, elle n'est pas liée à Linky. Je viens d'essayer de vous l'expliquer, mais bien évidemment, nous sommes tous engagés, et la France a un programme ambitieux de lutte contre le changement climatique. Ça passe par avoir une économie décarbonée, avec moins de CO2, donc plus d'usage de l'électricité. Enedis, qui, vous l'avez rappelé, est le service public, il faut le souligner, qui amène l'électricité jusqu'aux Français, jusqu'à leur lieu de consommation, eh bien, va devoir raccorder plus d'énergie renouvelable, puisque le mix énergétique français va faire une plus grande place aux énergies renouvelables à côté du nucléaire. Nous allons connecter aussi plus de voitures électriques et on parle de chiffres très importants. Hein. Le montant des énergies renouvelables raccordées au réseau Enedis va être multiplié par deux dans les années qui viennent. Même chose pour les véhicules électriques. Tout ça, ça a un coût, mais la commission de régulation qui fixe les prix avec les efforts d'Enedis fait en sorte que cette hausse soit mesurée parce que oui, bien sûr, le prix de l'électricité, c'est quelque chose de sensible. Il faut que la transition écologique soit solidaire, qu'elle soit inclusive, qu'elle ne laisse pas des consommateurs au bord de la route. Et donc, la facture d'électricité pour la part qui est liée à la distribution au transport, hein, donc la partie transport-distribution, va augmenter de 3 à 4 euros par an, ce qui reste très modéré. Et donc, on retrouve, sur 4 ans, on retrouve ce chiffre de 15 euros. Mais il n'a rien à voir avec Linky.
Alors revenons sur Linky parce que c'est l'objet de beaucoup de polémiques depuis qu'il existe. On sait qu'il permet de suivre sa consommation sur Internet ou sur son téléphone mobile. Il permet aussi de maîtriser sa consommation d'énergie. Mais est-ce que Linky espionne les usagers ? La Ligue des droits de l'homme avait dénoncé un compteur un peu trop bavard. Il pourrait transmettre nos heures de lever et de coucher, les périodes où l'on est absent, le volume d'eau chaude que l'on consomme par jour, le nombre de personnes vivant sous le même toit. Est-ce que c'est le cas ?
Non, ça n'est pas le cas, Frédéric Taillé. Je pense que ça fait partie, et c'est légitime, du besoin de comprendre un secteur qui est un peu complexe. L'énergie, c'est un peu complexe. C'est normal que les Français, nos clients, se posent des questions, se soucient des données, de leur santé et aussi des coûts. Donc non, le compteur Linky n'espionne personne. Les données appartiennent au client. Il en est le seul propriétaire. Et d'ailleurs, tout ça se fait sous le contrôle de la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, qui est très rigoureuse en la matière. Et donc, il compte. C'est un compteur. Donc, il se contente, si je puis dire.
Est-ce qu'il compte les appareils électriques que j'utilise ?
Non, il ne vous regarde pas. Il ne sait pas quand vous prenez votre douche, Frédéric Taddy. Pas du tout.
Bon.
Je tiens à vous le confirmer. Il compte globalement sur une journée l'ensemble de votre consommation d'électricité en kilowattheure. Et vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, beaucoup de clients l'ont fait pendant le confinement, à des applications, soit chez Enedis, soit chez les fournisseurs, qui vont vous permettre de suivre avec beaucoup plus de finesse et en direct votre consommation et donc de mieux la maîtriser, de vous comparer à d'autres ménages, à d'autres maisons identiques et donc de mieux piloter. Mais il ne vous espionne pas, il ne prend pas feu, présente un grand nombre de bénéfices, mais c'est vrai qu'il a suscité des questions et je crois que, d'autant qu'au départ il y avait peu de compteurs installés. Il faut rappeler quand même qu'il y a un milliard de compteurs intelligents installés dans le monde, en gaz, en eau, en électricité, et ce chiffre va doubler en 5 ans.
Merci Marianne Léniaud d'être venue en direct sur Europe 1 pour nous donner toutes ces explications.
Europe 1.
On se retrouve, l'émission est terminée, on se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est votre programme, Sébastien ?
On parlera d'un pèlerin en campagne, Emmanuel Macron et son Tour de France. Les régionales, le Front républicain est-il mort ? On va s'interroger. Et puis on reviendra aussi sur l'affaire Mila, bien entendu.
Merci Sébastien, bonne émission.